Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui, mais comment on boit ça?
Cul sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Ah, il fait beau, c'est le printemps, on est de bonne humeur. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, nous sommes à Guébertschuire. Nous sommes dans le Haut-Rhin, on a traversé la frontière barinoise. Alors, salut Adrien, comment tu vas?
Salut Mickaël, ça va super bien.
Alors aujourd'hui, on est chez quelqu'un que moi j'ai découvert il y a pas très longtemps, à l'époque, une certaine époque quand les bars existaient encore. C'était au Cantalou où j'avais goûté son grand cru. Mais je crois que toi, tu le connais depuis un peu plus longtemps.
Bah, on en parlait au moment d'arriver. Oui, c'était aussi une époque où Vincent avait organisé une journée en dégustation de vin avec un groupe. Enfin, c'était une violoniste d'ailleurs,
non ? Oui, c'était concert dégustation.
Concert dégustation, donc c'était génial. Il y avait plein de monde, bonne ambiance. Et puis voilà, un autre temps.
Nous sommes chez un vigneron. Alors on a les artisans vignerons, on a les poètes vignerons, visiblement on a les mélomanes vignerons. C'est quelqu'un que j'ai croisé au hasard. Il faisait une livraison. Il y a longtemps que je voulais lui sauter dessus. Et là c'était le moment. Salut Vincent.
Salut Mickaël.
Donc nous sommes au domaine Grosse à Guébertschuire. Merci de nous accueillir. Et on va surtout parler de ce qu'il y a maintenant parce que on a déjà un verre à la main et c'est juste majestueux pour nous accueillir. On est dans on est dans le chai.
Oui, alors là on est effectivement dans la cave historique du domaine. Mon grand-père avait que cette cave pour vinifier l'intégralité de ses vins, à faire directement de la mise en bouteille aussi. Il s'est très vite abstenu de la vente de raisins ou de vins en vrac et il a commencé à mettre en bouteille en 1957, ce qui était quand même assez précoce pour la région. Et il préférait vendre effectivement ses vins en flacon plutôt qu'en vrac. Donc ces cuves que vous voyez ici, elles sont effectivement la plupart de mon grand-père, qui les avait déjà de son père. Mais mon arrière-grand-père était forgeron de métier. Donc nous ne sommes pas une famille historiquement viticulteur depuis 4 siècles, comme certains. Nous, ça date des années 50, donc 70 ans maintenant. Mon père a continué à cultiver le domaine familial, qui était très petit, effectivement.
2 hectares, c'est ça ?
On était sur 2 hectares, même pas, ouais, dans les années 50. Ça a un peu évolué jusque dans les années 80, on approche les 3 hectares. Et mon père a été plus réactif pendant plus de 20 ans, parce que sur ces 3 hectares, au vu de la retraite agricole que touchaient mes grands-parents, il a fallu trouver des jobs
annexes.
Et des solutions, et mon père faisait et aidait mon grand-père à faire le vin, mais vinifiait surtout beaucoup et commercialisait dans ses temps perdus, on va dire, voilà. Pas trop de hobby autre que faire le vin, ce qui était déjà pas mal. Moi, j'arrive sur le domaine dans les années 2005, où là, on se retrouve à peu près à 4 hectares et demi. Le domaine avait guère évolué en termes de surface, mais mon père s'octroyait surtout à la vinification, toujours encore. C'est un point aussi que j'aime bien souligner, parce qu'on m'a dit que c'est important de le souligner un jour. C'est que le domaine, on n'a jamais vendu un seul litre de vin en vrac, ni en bouteille, ni en... Donc, c'est à ce qui paraît, c'est bien. Et de 2000 à maintenant, enfin plutôt aux années 2015, on est monté avec beaucoup de fermage à 10 hectares de vignes. Et on se stabilise sur cette surface parce qu'en biodynamie, c'est déjà pas mal de travail. Il faut aussi commercialiser tout ce vin, sachant qu'on fait un pont direct avec les terroirs. Les terroirs à Guébertschuire, c'est quand même des terroirs assez profonds, lourds, avec des argilo-calcaires, marno-calcaires pour le Grand Cru Golder, donc puissants, avec des rendements qui sont rarement très bas, on va dire ça comme ça. Parce que c'est des sols fertiles, tout simplement, et on s'en cache pas. Maintenant, il faut quand même maîtriser un peu la fougue de ce terroir. Moi, j'aime bien que Laurent Besseau aussi, qui m'a demandé de décrire le Golder par une image ou par... comme il a l'habitude de le faire. Moi, je disais que le grand cru, pour moi, Golder, c'est vraiment un cheval de trait, en fait. On ne peut pas demander au cheval de faire un défilé autour de l'Arc de Triomphe sur les pointes. Il est là juste pour bosser et pour tirer du... Il faut le faire travailler, sinon il sera en mauvaise santé, quoi. Alors après, il ne faut pas le faire surtravailler, effectivement, et il faut rester sur quelque chose de modéré. Et c'est vrai que sur ces terroirs-là, on a toujours excellé par les styles assez liquoreux, notamment les vendanges tardives, parce que c'est des beaux terroirs, comme comme bien d'autres en Alsace, il y a des terroirs qui sont, comment dire, par prédilection, des terroirs à sucre résiduel, à botrytisation. Et on peut faire des belles vendanges tardives, effectivement, sur ce Golder et sur les terroirs de Gewürztraminer. À l'inverse, pour vinifier en sec, bien mûr, ben, ça a été toujours un peu délicat de fermenter des vins au bout des sucres. Donc on a toujours eu par expérience pas mal de, même sur des Riesling, des petits sucres résiduels, 3, 4, 5 grammes, 6 grammes selon les millésimes, des fois même 8 ou 10, mais ça goûte bien. Mais j'avais pour ambition de pouvoir faire des vins vraiment exclusivement secs et pour pouvoir ensuite vinifier sans soufre et sans intrants. Sans intrants c'était pas un souci, mais sans soufre avec un peu de sucre résiduel, j'étais pas trop rassuré, on va dire ça. Et la macération pour moi était vraiment l'issue. J'ai découvert les vins de confrères comme Rich ou Christian aussi. Et là, on a testé en 2016 les premières macérations. Et comme je le dis souvent depuis un an bientôt, parce que les vins oranges prennent beaucoup d'ampleur partout, pas qu'en Alsace. Et le jour où ce sera plus à la mode, moi, je continuerai à en faire parce que pour moi, c'est pas un atout commercial. Je mets pas mes vins oranges en bouteille blanche pour montrer la couleur du vin. Mon but, c'est vraiment de faire du vin sec, en fait. Et je me suis trouvé un style dans cette vinification parce que c'est beaucoup plus serein pour moi. Je termine mes sucres en fin de macération et je pense qu'il y a spécialement du vin orange. D'ailleurs, le vin que je vous ai donné n'est pas spécialement orange, n'est-ce pas ? Et il peut être tout à fait classique en termes de couleur. Il est certes un peu ambré, mais il est sans soufre jusqu'à présent. Et c'est une macération qu'on fait dans le terroir du Rebgarten. Le Rebgarten qui est le premier terroir profilé historique sur le bas de la commune. Il y a bien sûr sous ce terroir du Rebgarten, il y a encore des vignes, quelques extensions qui ont été faites. Et bien sûr, on n'a pas été très gourmand, mais voilà, il y a quelques extensions qui se sont étendues où on a planté souvent des auxerrois, des pinots pour faire des créments. Mais le Rebgarten, c'est le terroir le plus bas sur la commune. Donc il y a quelques traces de leus encore et des limons. Sol assez léger, à tendance déjà calcaire, mais pas aussi calcaire que sur les coteaux. Et donc macération de Sylvaner, 100%. Dans les terroirs, c'est vrai que pour le domaine, on est sur des vinifications 100% monocépage dans les terroirs. Hein. On a deux cuvées d'assemblage, à savoir l'entrée de gamme orange qui est le trio, qui est un assemblage de trois cépages qu'on prend plutôt sur les bas de coteaux. À l'inverse, le Grand Cru Golder, où depuis l'année dernière, on a assemblé trois cépages. Pour le bienfait du vin, pas juste pour le fun, mais on avait fait un essai anecdotique sur 100% Gewürztraminer sur le Grand Cru, et c'était pas folichon parce que... Disons que le Grand Cru apporte déjà beaucoup de puissance. Ajouter à cela les épices et la puissance alcoolique du Gewürztraminer, ouais, c'était presque du marc de Gewürztraminer. Donc, l'assemblage est bienvenu dans ce cas-là, avec un peu de Riesling, enfin un tiers de chaque, un tiers Riesling, un tiers Muscat, un tiers Gewürztraminer. Et sinon, tous les autres terroirs, effectivement, ne sont pas complantés parce qu'on a des dominantes de cépages par terroir. Dans le Sperling, par exemple. C'est essentiellement du Pinot Gris. D'ailleurs, pas que moi, mes voisins aussi, et mon père, et mon grand-père aussi, mais mon père surtout. C'est vraiment, avant de planter des vignes, on a toujours un peu consulté les voisins, les anciens, qu'est-ce qui se fait de bien ici. Il y a toujours de bons conseils à ce niveau-là. Faut surtout pas planter de Sylvaner ici. Moi, je l'avais fait, tu vois, ici, là, c'était pas glorieux. Ah bon, ok. Mais par contre, si tu plantes du Riesling ici, c'est top. Et le Pinot Noir, c'est plutôt par là-bas. Et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est pas que je suis contre la complantation. D'ailleurs, dans le Grand Cru, on commence à le faire, étant donné que la cuvée le veut. Il y a des parcelles 100% Gewürztraminer où on complante maintenant en Riesling ou en Muscat. Pour avoir peut-être le mélange des cépages au sein de la même parcelle. Mais on le fera pas dans les autres terroirs. Parce que pour moi, c'est aussi une identité assez alsacienne, le monocépage. Je trouve que c'est bien, je ne le mets pas en avant sur l'étiquette, le terroir sera toujours bien avant. Mais pour moi, le Sperling, c'est du Pinot Gris, et voilà.
Mais c'est intéressant, parce qu'on le voit de moins en moins, justement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vignerons maintenant qui veulent mettre un assemblage pour que le terroir se révèle. Et toi, tu nous dis plutôt que voilà, chaque terroir a son cépage, de toute façon, qui marchera un petit peu mieux dessus. C'est plus ou moins ça, si je t'ai bien compris.
Alors c'est plus ou moins ça, je dis pas que c'est une réalité, mais il faut savoir que les assemblages sont des fois les bienvenus, surtout au vu des conditions climatiques et des millésimes qu'on subit depuis quelques temps avec les sécheresses. Mais comme je l'ai dit, Gewürztraminer, on est pas sur le même profil que partout, on a quand même des capacités de rétention en eau, des sols qui souffrent peu de sécheresse, à part sur les bas et les jeunes parcelles. Mais même au vu des étés très très secs qu'on a eu les dernières années, c'est quand même... La vigne se comporte bien Mais je suis pas fermé. Peut-être qu'un jour, vous me reverrez dans 5 ans et j'aurai fait de l'osperling avec un assemblage de 4 cépages. Les choses évoluent. Comme je dis toujours, en tant que vigneron, moi, il n'y a pas une année où je fais deux fois la même. Enfin, il n'y a pas deux années qui se suivent où je fais exactement la même chose, que ce soit à la vigne ou en cave. Hein. Il y a toujours des évolutions parce qu'on discute avec les confrères, on discute avec plein de monde, on est ouvert à tout ce que les gens font, tout ce que les gens racontent et on fait le tri et qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis.
En même temps, quand on parle d'évolution, en 2005, quand t'es arrivé, si on t'avait parlé de vin orange, t'aurais dit c'est quoi ça ?
Exactement. Je pense que j'aurais été très surpris. Je me serais sans doute pas lancé dans cette aventure-là. Mais si on m'avait déjà dit à l'époque que ça permettrait pour moi de faire des vins exclusivement secs. D'ailleurs, c'est ce que vraiment m'ont expliqué mes confrères. Hein. Je trouvais ça génial tout ce que j'avais goûté avant d'en faire et en fait, souvent, on me disait, mais comment tu fais ton pinot noir ? Je dis, ben, mon pinot noir, je l'encuve, et après, ça fermente bien, ouais, tu fais du sans soufre. Je dis, ben oui, et tu filtres pas des fois, ouais, ça m'arrive. Je dis, ben t'as qu'à faire. Et mes confrères me disaient, voilà, t'as qu'à faire pareil avec les autres cépages. Basiquement, hein. Et en fait, en y réfléchissant, et c'est ensuite en pratiquant que mon père, par exemple, qui était plutôt axé de nouveau vers une vinification qu'on lui avait conseillé, hein, les œnologues conseillaient plutôt des pressurages et voilà, beaucoup de protection, du tri toujours. On a toujours été très méticuleux à la vendange, mais quand même, on peut se permettre d'avoir un peu de botrytis, un peu de. Donc, quand on macère, c'est pas tout à fait la même donne. On n'a pas les mêmes objectifs de maturité non plus. Et mon père me disait, en goûtant les premiers vins, c'est les vins de ton grand-père, quoi. Mais eux, parce que eux faisaient macérer dans les boutiches, dans les pressoirs, ils n'avaient pas les mêmes atouts technologiques qu'au jour d'aujourd'hui. Et des fois, ce qui n'était pas fait le soir même, était reporté au lendemain. Et donc, si les raisins restaient dans la cour avec des nuits fraîches une nuit, c'était pas très grave. Mais macération, petite macération de 24 heures. Et du coup, derrière, il était très bon, et on a peut-être un peu cultivé ça. Il me racontait même que les millésimes un peu froids, où on avait peut-être des maturités et des rendements, et on va dire un rendement élevé plus une maturité un peu négative avec des verdeurs un peu dans les raisins. On arrive fin de campagne, on se dit tôt ou tard faut quand même vendanger. On basculait une bottiche par terre avec une pelle, on rentrait les raisins dans le foudre, on fermait la porte et on remplissait le jus. Hein. Ça donnait un peu de fond au vin et après c'était un peu risqué.
T'as eu l'occasion de goûter justement des cuvées de ton grand-père?
Alors, il n'en reste pas beaucoup. Il faut dire qu'il ne faisait pas beaucoup d'œnothèques à l'époque. Et la famille était nombreuse, et les amis sans doute aussi. Mais sur des muscats, mon père a pu se garder ses vins à lui, mais on n'était pas plus tellement dans ses profils de vins, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pu goûter. Je suis pas fermé à tout type de vinification. Mon père a toujours un peu vinifié avec des sucres résiduels, j'ai jamais trop compris pourquoi, et en fait par la suite je l'ai compris parce que c'est le terroir qui veut vraiment ça. J'ai fait des propres essais avant de faire de la macération sur des récoltes assez précoces où derrière le vin y avait de l'acidité, ça c'est sûr, mais il y avait peut-être pas la maturité qu'il fallait non plus, quoi. C'est vrai qu'en Alsace on peut avoir des différences de date de récolte assez prononcées selon le terroir, le cépage, la commune. Mais surtout la commune et les terroirs, quoi. Pour moi, c'est...
Parce que tu vendanges un petit peu plus tôt, du coup, comme tu sais que, vu que tous les sucres seront transformés en alcool, est-ce que ça t'oblige à vendanger un peu plus tôt que si tu faisais avec un peu de sucre résiduel ou pas forcément ?
La maturité, elle doit être quand même optimale pour une macération, parce qu'on ne peut pas ni se cacher derrière les sucres. Quand on va apporter quelques amers qui seront sans doute issus aussi de la rafle des pépins, selon comment on va laisser de la grappe entière ou de la grappage... Ouais. Mais même en dégrappage, on peut agresser la rafle, qui elle va être peut-être un peu verte. Et on peut, quand cette rafle, ces portions de rafle qui peuvent être emmenées quand même, à moins dégrapper à la main, on peut aussi emmener ces grappes déchiquetées en cuvaison, et là ça peut être un peu dramatique. Donc à mon sens, oui, le degré de maturité est très important. Et pour ça, on a des pratiques viticoles qui poussent à avancer le degré de maturité phénolique, notamment le non-rognage qui est pour nous capital, parce qu'en fait là on a les maturités phénoliques qui sont très précoces avant la montée des sucres, des fois un peu trop élevés, et ça nous permet de cibler une date de récolte. Mais alors j'avoue que celle-ci je peux pas donner comment dire, de dérouler de timing précis pour une récolte, quoi. Moi, c'est au feeling, c'est on y va pas. À l'encuvage, c'est pareil, souvent on me dit comment on choisit la proportion de grappes entières, la proportion des grappées. Franchement, moi, je rentre avec ma récolte, je vois que j'ai 12 bouteilles, je vois ma cuve, faut que ça rentre, de toute façon. Donc, des fois, c'est moite-moite, des fois, c'est 70-30, ça dépend du millésime, ça dépend de, aussi de l'effet du l'égrappage, par exemple. Mais j'égrappe ouais, souvent une partie. Les premières années, j'étais un peu déçu de mes givers, notamment que j'avais macéré en grappe entière dans du jus, bah, je me suis retrouvé avec un vin blanc. Je dis, bah, je voulais faire un vin orange, c'est ballot. Et au final, voilà, l'œnologue m'a conseillé aussi, il m'a dit, si tu veux de la couleur, il faut un peu agresser la peau, quoi. Mais c'était pas un but ultime non plus, la couleur. C'est vrai qu'on change un peu tous les ans.
Et du coup, là, on est sur, alors pour l'inauguration, on est sur de ce podcast, on est sur le Rebgarten, c'est bien ça, à Rebgarten en amphore. Alors justement, peut-être faire une redite sur l'amphore, qu'est-ce que selon toi ça apporte au vin?
Alors là, on n'est pas tout à fait sur des amphores, on est sur des jarres en grès, ce qui est très différent parce que l'amphore, c'est de la terre cuite et qui n'est pas cuite aussi forte que ces jarres-là en question. Les jarres en grès peuvent être cuites plus fortes, jusqu'à 1300 degrés, donc plus on va cuire fort, plus on va fermer la porosité de la jarre. Et là, on est sur une porosité qui est presque un peu plus fermée qu'un foudre, mais qui est un peu plus lâche que l'inox. Et c'est des petits volumes. Avant ça, on vinifiait ces volumes souvent sur des cépages un peu cristallins, le sylvaner, le muscat, ou là-bas, il y a un dessert du pinot noir, mais le muscat notamment, on n'aime pas trop le mettre dans des foudres. Et en plus, vu les volumes, on n'a pas toujours des foudres petits. Donc, c'était souvent voué à de l'inox. Et le muscat en inox, eh ben, selon les millésimes, on peut avoir des réductions des fois assez marquées parce que l'inox, c'est réducteur, quoi. Donc après, c'est pas très grave, mais il faut retravailler le vin derrière. C'est des fois un peu stressant. Et on avait fait un essai sur Mittelweg, muscat. En jarre, et c'était assez concluant par rapport à ça. Et cette année, Mittelweg a été plutôt vinifié à nouveau en inox pour laisser place dans la jarre au pinot noir, parce qu'on a aussi un peu pris un virage par rapport à ça. Le pinot noir, maintenant, qui sont issus de nos terroirs à Roufac, ont abandonné un peu le côté barrique. Avant, on était sur des vieilles barriques et moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les barriques. Souvent, on me demande. Bon, on n'est pas très spécialiste en Alsace. On prend les barriques, on appelle le tonnelier, on dit voilà, t'as un truc qui bosse pas trop. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que les Bourguignons qui manipulent des centaines de barriques ou certains Alsaciens qui ont beaucoup, beaucoup de barriques, qui en achètent des occasions. Moi, j'aime bien les barriques plutôt vieilles. Après, quand on va dans le vieux, au bout de 10 ans, on peut avoir des. Il faut faire attention. On peut avoir des barriques qui peuvent un peu dévier. Faut être toujours beaucoup dans le suivi. Ça m'est déjà arrivé d'écarter des barriques, c'est embêtant parce que voilà, on perd du vin. Donc pour la cuvée, quoi, en question. Moi, j'aime bien les volumes entiers sur un fût. Idéalement, j'aime pas trop faire des assemblages avant les mises, à part si c'est vraiment trop volumineux. Mais sinon, j'aime bien avoir voilà, le sylvaner, c'était 10 hecto, la jarre fait 10 hecto, très bien. Et c'est des grosses jarres, hein. C'est vrai que habituellement les amphores c'est un peu plus petit quand même, on est plutôt sur 400, 500, 600 litres, mais la terre cuite se travaille pas comme le grès. Le grès c'est un matériau plus dense qui peut être beaucoup plus robuste et je fais pas de macération dans ces jarres parce que pour les décuver c'est un peu fastidieux. On avait fait un essai une année, bah, il a fallu rentrer dedans après et du coup on a commandé des nouvelles jarres qui elles se basculent, extérieures toujours, et qui elles vont être vouées vraiment au vin rouge, au pinot noir. Pour laisser à nouveau place peut-être au muscat dans la 12.
Eh ben, tu connaissais les jarres en grès?
Un petit peu, ouais, ça se fait de plus en plus. Les jarres en grès, beaucoup en terre cuite. Il y a des œufs aussi ovoïdes en béton encore, je crois. Enfin, il y a des choses.
Et on va goûter, on va enchaîner justement une belle transition pour le pinot gris. Moi, je le mets en foudre. Ça fait des années que je le mets en foudre et
c'est super possible.
Alors justement, ton Rebgarten. C'est quoi tes impressions?
Bah, c'est super précis. C'est, tu me diras la durée de macération, mais c'est pas justement quelque chose de trop lourd. Ah, quand même, ah oui. T'as une amertume et une texture que t'as en fin de bouche, ce côté tannique un petit peu en fin de bouche, mais qui est assez léger, assez précis, assez fin. Donc je pensais vraiment qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus.
C'est relativement gourmand aussi.
Non, mais c'est bien. Ouais, je pensais. Ouais,
moi aussi.
Il y a quand même une belle texture en fin de bouche, mais ça reste très fin, je trouve. On ne sort pas sur quelque chose de trop long. Après, sur les macérations, on entend souvent que passé un certain moment, ça commence à revenir dans le rang un petit peu, et c'est peut-être ça qui s'est passé.
C'est vrai. On parle toujours de soit très court, quelques jours, ou à peine une dizaine, ou alors vraiment, il faut aller au bout des sucres. Mais c'est vrai que on le fait sur le Pinot Noir. En fait, sur le Pinot Noir, on va au bout des sucres du jus de goutte, on va dire, et ensuite il reste le sucre. Et là, deux solutions, soit on va très loin, 6 mois, on attend vraiment que tout se fasse dans la jarre, mm-hmm. ou pendant la macération. Soit on décuve, on presse, et là on extrait justement le jus des baies, et ces sucres vont terminer de fermenter en à peine quelques jours, quelques semaines, et vont terminer cette fermentation pour se poursuivre directement sur l'élevage, quoi. Mm-hmm.
Bon, par contre, ça, j'ai mis le nez dedans, c'est un vin orange comme moi j'aime, tu sais que j'aime les vins oranges. Attends, Sylvaner.
Naïvik, c'est adossé au flanc est du village.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment purement calcaire. Et alors, ce terroir, moi, je l'aime particulièrement parce que c'est vraiment la sortie du village côté est. On est protégé des vents dominants. Les brouillards aussi s'effacent toujours en remontant le long du village. Ils ne viennent pas non plus lécher les façades. Donc en fait, on a moins d'hygrométrie globalement. Et c'est des terroirs qui botrytisent très peu. Mon père me disait souvent, vendange tardive dans le Neuvig, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Parce qu'on n'aura jamais de botrytis. C'est très intéressant, justement, pour ce cépage. Et il y a une dominante de ce cépage, effectivement, dans ce Neuvig, parce qu'on a des raisins qui restent sains très longtemps, et on peut donc jouer sur des maturités phénoliques. Et donc, c'est Gewürztraminer.
Alors, j'avais l'aromatique, je me suis dit à l'instant, je dis, putain, tes vins sont très aromatiques. Lui, il était aromatique. Lui, il était aromatique. Bon, forcément, c'est des.
Quand même est connu pour ses muscats dans le Grand Cru, c'est quand même un cépage qui était dominant dans ce coteau côté nord, et sinon on a une dominante de Gewürz. Personnellement, moi je suis bien content avant d'avoir fait des plans d'arrachage de Gewürztraminer massif, d'avoir fait de la macération de Gewürz, parce que ça a vraiment sauvé ce type de vinification 100% Gewürz. Vous avez sans doute, enfin vous sillonnez pas mal de vignobles, selon les terroirs
on en a fait quelques-uns
On n'est pas obligé d'adopter un style de vinification qui peut être à la mode ou comme on l'a dit précédemment. On a vraiment, chaque vigneron peut choisir sa pâte selon ses terroirs et selon. J'en discutais récemment avec une confrère, la Lydie Solaire, qui est venue déguster ça l'année dernière et qui me disait qu'ils ont fait des essais de macération et c'était pas, elle trouvait pas vraiment d'aisance dans ce style de vinification. Reichfeld, enfin Notalten, des terroirs un peu différents. Je dis mais si tu le sens pas, faut pas le faire. Enfin je veux dire, c'est pas parce que tout le monde commence à faire de la macération qu'il faut commencer à en faire. Après c'est vrai que tout le monde se lance un petit peu dans le Gewürztraminer et c'est parce que les Gewürztraminer sont. Moi-même, j'en ai encore vinifié il y a quelques années sur des pressurages, avec du sucre résiduel. Et mon père a un peu sa clientèle pour ça, et j'ai du stock, quoi. Et quand il y a un très bon dessert dans un restaurant, on a quand même la politesse d'admettre que c'est très bien fait. Et c'est sans doute beaucoup plus difficile de bien faire des sucres que de bien faire quelque chose de sec et d'acide, comme les entrées dans le restaurant. Je parle de la gastronomie, c'est vraiment le lien direct avec le vin, et c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de chefs jurent par l'effet sec, mais si on trouve un mal accord avec un sucre, on peut avoir aussi... On l'a dit tout à l'heure, en ce moment, peut-être que les vins oranges, c'est à la mode, c'est sec, c'est bien, c'est alsacien, c'est aromatique. Mais peut-être que dans 10 ans...
On aura du vin bleu.
Non, mais tout le monde se sera peut-être... peut-être pas lassé, mais aussi on retrouvera un plaisir dans les sucres, quand ils sont bien faits. Mmh. Peut-être que ça a été, comme beaucoup d'autres styles de vinification, même les vinifications secs, quand c'est trop vulgarisé, faut faire attention, quoi. Moi, je me souviens d'une époque où Gewürztraminer, on n'était pas les champions des vins secs, ça c'est sûr. Mais je goûtais des Riesling où je me disais, j'aime bien l'acidité. Quand elle est trop massive et que franchement, un peu agressif et qu'on sent.
C'est pas agréable.
Non, c'est pas agréable. Là, autant je préfère encore quelques grammes de sucre que. Et voilà, après, tout est lié à un goût personnel. Quand vous allez dans les pays scandinaves, eux, ils sont plus sur les vins très secs, très acides. Après, si vous redescendez dans le sud, on a plus d'aisance dans les sucres. Et voilà. I'm gonna go to bed. Moi, j'aurais qu'une réponse pour les grands crus. C'est des dossiers qui ont été ouverts il n'y a pas si longtemps, hein, années 80, entre 75 et 85, des dossiers des fois plus ou moins longs selon les grands crus. Enfin, ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais...
pas né.
J'étais dans les couches à ce moment-là. Et ouais, ou pas né, c'est vrai. Et au final, je pense que pour la plupart, il y a des cas particuliers, parce que moi-même, j'étais en stage à Andelot chez Antoine Kreinweiss, sur le Kastenberg, qui n'est pas très grand. Mais pour moi, ils sont tous beaucoup trop grands. Nous-mêmes, sur le Grand Cru Golder, les limites basses ou pas hautes, on n'a pas tellement sur le haut du... Mais c'est quelque chose qu'on... Quand on en discute entre vignerons, ouais, les limites extérieures du Grand Cru, c'est plus le cœur, quoi.
Et j'ai même l'impression...
Il a fallu bien trouver des limites, les chemins, mais il y a eu sans doute un plan de base. Par exemple, dans le Grand Cru Golder, il y a un vrai terroir lieu-dit Golder qui fait 2,5 hectares. Au final, le Grand Cru, il a été acté et validé par l'INAO à 44 hectares. Et c'est même encore plus dramatique que ça, c'est que si on voulait revenir dessus, on ne pourrait même pas. Eux, pour eux, c'est gelé, quoi. Même si tous les vignerons de Gewürztraminer, on se met dans son initiative, on disait, bon, effectivement, 44, c'est trop grand, on aimerait revenir à, je ne sais pas moi, 23 ou 25, ça serait peut-être suffisant. Sachant qu'il n'y a quand même que 5% qui sont commercialisés, ce serait largement suffisant. Ouais. Et alors, c'est aujourd'hui, on joue, les vignerons font des fois une année sur deux, ou bon, voilà. Moi, j'ai toujours voulu faire l'intégralité, mais c'est vrai que j'ai écarté un peu deux parcelles que je connais bien, qui sont vraiment en limite basse, plus sur la partie nord vers Fengitzhofen, qui sont moins dans ce que je recherche du Grand Cru Golder, quoi. Et c'est vrai que les Grands Crus, pour moi, ils sont peut-être trop grands. Qu'il y en ait trop, non, je pense pas. Après, on parle toujours un peu des mêmes. Il y a
un peu ça.
Et puis après, derrière, il y a les autres, quoi. Il y en a même qui parlent de...
25 25. Alors, attends. On fait un jeu. Combien de grands crus peux-tu énumérer?
Je pense 15, 20, peut-être. Ouais, peut-être, sans doute pas plus.
Dans le grand cru, parce que quand on fait nos réunions, il y a 51 grands crus au final.
T'as les 3 Altenberg, t'as les 2 Kirchberg, t'as le Hengst, le Schlossberg.
Le Vinex Schlossberg,
soi-disant premier, tu l'as cité en 7e position.
Pas dans l'ordre. Hein. T'as ceux qui te disent que. T'as les amoureux du Schifferberg qui essayent de te le vendre comme un grand cru, tu vois. Mais tu sais, c'est bon et c'est très bon.
C'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour ma part.
Tu vas chez Albertus, son Westerberg, ouais, avec maintenant le petit Einhardt, c'est pareil. Limite, je suis l'INAO, il faut que je signe comme quoi c'est un grand cru. C'est ça qui est drôle.
On a un peu un droit à la terre en tant qu'Alsacien, que ce soit. Oui. À un moment donné, j'ai vraiment réfléchi à ça aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop, j'aime pas lancer des pavés dans la mare, comme tu dis, ou remuer certaines choses.
Parfois, ça fait avancer
en Alsace pour essayer de faire évoluer les choses comme on pouvait dans certaines époques. Ils ont validé des grands crus, tant mieux peut-être. Si on n'avait pas du tout, on s'en plaindrait aussi, en fait, si personne n'avait rien fait. Donc, à un moment donné, il faut pas tout critiquer. Moi, je pense que c'est bien que les grands crus ont été validés et qu'aujourd'hui, quand on va créer les premiers crus, certains voient ça comme... quelque chose de compliqué. Moi, je pense pas à la carte qui a été faite par les jeunes vignerons. Elle est superbe. Et en Bourgogne, elle existe depuis la nuit des temps. Et là, on parle pas de cépage. Après, chacun fait comme il veut, mais juste la carte. Parce que si l'Osperling existe, si le Neuvig existe, faut juste en parler. Et faut qu'il soit pratiqué. Parce que tout le monde veut peut-être une carte. Tout le monde peut-être pas. Mais ceux qui la veulent, faut qu'elle soit visible. Et cette carte, elle est superbe. Elle est vraiment magnifiquement faite. Elle va être évolutive. Et moi, j'applaudis vraiment tous ceux qui ont œuvré pour cette carte, Denis ou d'autres. Qui ont vraiment mis les bouchées doubles pour qu'elle voie le jour, assez rapidement d'ailleurs. Mais pour en revenir au style et au grand cru, personnellement, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis posé la question il y a 2 ans en me disant, voilà, je vais faire du vin de France, ce sera beaucoup plus simple à tous les niveaux. Mais, comment dire...
Mais t'es attaché à l'Alsace.
C'est un peu blire quand même. Hein. C'est un peu dire, ah bah, pardon, excusez-nous, on a fait des vins oranges, bon, c'est bon, on ne vous embêtera plus, on ne va pas partir en vin de France. Après, on se met à la place d'un acheteur potentiel à l'autre bout du monde qui est dans son restaurant. Il prend la bouteille, il voit 20 de France. La France, c'est grand. Hein. Moi, j'habite pas Avignon, j'habite pas Toulon, j'habite pas. Donc, je suis Alsacien. Donc, si un AOC Alsace, c'est un AOC Alsace, c'est un AOC Alsace. L'AOC a été mis en place. Moi, je pense que.
Alors, c'est l'AOC.
Ce qui n'est pas le cas de Trio, où c'est un assemblage où je ne revendique pas vraiment le terroir. Et là, je me suis mis en 20 de France. Parce que, oui, je mets ça en bouteille blanche, c'est une couleur orange, et ça a agacé certaines personnes qui m'ont dit. Écoute, c'est pas possible de... Voilà, ça, c'est pas de l'Alsace, c'est pas possible. En plus, tu marques Trigo, là, c'est quoi cette étiquette? Ok, bon, si ça choque tout le monde, je m'efface, je dis ok. Mais par contre, Osperling, c'est un terroir qui était travaillé par mon père, par mon grand-père, par mon arrière-grand-père. et qui sera peut-être travaillé encore longtemps. Et ces Pinot Gris-là, pour moi, ils ont le droit à la AOC. On parle souvent, voilà, on exporte aussi, on fait beaucoup de choses. Et l'export, c'est aussi polluant, il faut le savoir.
Bien sûr.
Et nous, personnellement, on exporte plutôt dans des pays qui ne font pas beaucoup de vin. J'exporte pas en Italie, pas en Allemagne, pas chez tous nos voisins qui font du vin, par exemple. En Belgique, oui, bon, maintenant, ils commencent à faire du vin aussi.
Oui, bien sûr, en Luxembourg aussi.
On commence à faire de la bière, alors, et ça ira bien.
Mais...
Non, mais après, en Angleterre ou d'autres. Mais les États-Unis, par exemple, ils ont quand même beaucoup de vignobles aussi. Pas d'Australie, pas de Nouvelle-Zélande. Après, les pays asiates, bah, ils font un peu de vin, mais c'est anecdotique. Et puis, les pays nordiques, quoi, ça, c'est bien. Mais c'est... je pense que tout le monde doit avoir une réflexion aussi par rapport à ça. Et garder toujours un peu de vin. Moi, je garde toujours un peu de vin pour les Français. Maintenant, je mettrai quand même un tout petit bémol. Moi, j'aime pas beaucoup donner les infos avant dégustation. Je dis pas qu'il faut déguster à l'aveugle. Et c'est pas du tout pour cuiser les gens ou pour... Mais on devrait beaucoup plus... Pas que les Alsaciens, d'ailleurs. Mais l'Alsacien est toujours un peu curieux, plus que certains d'autres Français, d'autres régions. Mais on veut toujours savoir beaucoup de choses avant de mettre le nez dessus et de goûter. En gastronomie, d'ailleurs, pareil. Hein, souvent, on le voit dans les restaurants, quand les gens reçoivent une assiette, il faut qu'ils sachent exactement tout ce qu'il y a dans l'assiette. Sinon, ils ne sont pas capables de commencer à manger. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Et il y a beaucoup de restaurants qui travaillent là-dessus maintenant, qui essaient de faire aussi, sur la découverte, des menus découverts, des menus où on ne sait pas ce qu'on mange. Même manger dans le noir, ça se fait, mais... Pas en Alsace, mais ça commence.
Et moi, je rêverais d'organiser une dégustation de vin d'Alsace, complètement dans le noir.
Ouais, c'est possible, bien sûr. Après, c'est vrai que les gens se sentent un peu... on a l'impression de passer un interrogatoire, quoi. Quand on met des verres noirs, des craches noirs, voilà, et on se... Oula, qu'est-ce qui se passe?
Ou à la bougie.
C'est stabilisé. Mais c'est sûr que sur un Pinot Gris qui a la couleur d'un Trousseau ou d'un Pulsar, quand on va dire un consommateur lambda, voilà, c'est du Pinot Gris, la personne est quand même une fois sur deux pas tellement d'accord, et puis elle va être un peu rédhibitoire. Enfin, disons qu'elle elle va repousser instinctivement la dégustation.
Non,
j'ai pas dit ça, mais ouais. C'est vrai que les gens sont très surpris quand au service. Ah, du rosé, ou c'est Pinot Noir. Bon, c'est léger comme Pinot Noir, ou voilà. Et, mais comment ça, Pinot Gris? Mais je comprends pas. Alors, vous comprenez pas, certes. Ma question, c'est pas de savoir si la personne comprend la couleur ou est déstabilisée par cette couleur. Est-ce que ce vin vous plaît? Est-ce que ce vin vous plaît? Alors, c'est rarement non. Les gens sont souvent en train de dire, c'est pas mal quand même. Alors, il y aura toujours un effet, quand on est connaisseur de vin ou non, et autour d'une table, on a 6-7 personnes, il y en a toujours un qui est très connaisseur, et les autres qui suivent un peu. Donc, ceux qui suivent sont, pour moi, les amis les plus objectifs. Parce que c'est comme un enfant qui ne connaît pas, il goûte et il dit « Ah ouais, j'aime pas ». Et là, on a souvent un bon dialogue qui commence à se mettre en place avec « Voilà, bah non, désolé, c'est sec, c'est amer, il y a des tanins, enfin c'est un peu déroutant ». Et puis la personne d'à côté qui n'a peut-être pas de référence de Pinot Gris va vous dire « Moi, j'aime bien ». Le seul conseil que je peux donner, et c'est pas que voué aux macérations, ça peut être lié à tous les vins, parce qu'il y a des vins, selon les terroirs, notamment les terroirs de granit, qui développent des amers naturellement, sans macérer. On peut être aussi déstabilisé par ces amers. On se dit, tiens, c'est amer, quoi, c'est bizarre, c'est pas d'Alsace, c'est... Bah si, c'est d'Alsace, mais c'est des granites. Voilà, c'est sol pauvre, ou voilà, très peu de sol. Et là, moi, ce que je conseille souvent, c'est de dire, il faut faire la dégustation à l'aveugle, toujours. Mais pas pour cuiser les gens, mais voilà, je vous sers ça. Parce que si on apporte un vin potentiellement rose ou rouge, en disant c'est du chardonnay, mais une fois sur deux, la personne vous dit, bah, tu t'es trompé de bouteille, laisse tomber, referme. C'est pas la bonne bouteille. Ok, bon alors, si tu le dis, moi, je veux bien goûter. Mais la personne est fermée, c'est fini. Elle a fermé toute son objectivité par rapport à la dégustation. Alors que si on dit, voilà, je vais goûter quelque chose, tu me dis ce que t'en penses. Tu me dis si ça te plaît, si ça te plaît pas. Et après seulement... Mais en fait, ça, c'est quelque chose... On en parle beaucoup depuis les mains oranges parce que c'est vraiment visuel, en fait. C'est à la couleur, on sert. Oh, tout le monde est déjà surpris. Mais ça a toujours existé, notamment avec les grands crus. Les grands crus, on pouvait faire goûter des Riesling grands crus. Même moi, j'étais bluffé plus d'une fois en disant ah ouais, carrément Riesling. Moi, j'aurais jamais dit Riesling. On aurait dit un Chardonnay Bourguignon. Mm-hmm. Ou voilà. Ou... Et ça, c'est assez. Mais c'est ça qui est magique dans le vin. Parce que si on faisait. Et c'est pour cette raison. Enfin, c'est comme ça que j'aimerais ramener les gens dans les caves des vignerons et pas dans les gondoles de supermarchés. J'ai rien contre les supermarchés, mais bon, c'est pas mon endroit.
Favori.
Enfin, je ne me sens pas toujours très bien.
Et justement, alors
au final, c'est comme ça qu'on peut les ramener, parce que juste avoir un produit standardisé sur un rayon, ça, tout le monde sait faire.
Certaines appellations, quand ils
goûtent, ils disent, bah voilà, cette appellation-là, ça doit goûter comme ça, c'est forcément exactement la même chose, donc on va utiliser les mêmes levures, on va faire exactement la même façon. Et...
On ne peut pas tout standardiser, il faut arrêter de... Voilà, il y a aussi des gens qui ont des projets de pouvoir maîtriser la couleur des yeux de leur progéniture, si ça les rend heureux. Moi, je trouve ça un peu triste, mais...
Et je pense qu'il
y a de magie dans la vie avec tout ça. C'est des moments uniques, la naissance d'un vin, la naissance de tout. Et il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait des... Ah ben, tout compte fait, voilà, c'est... Ah là, le Sperling, cette année, bah, il est très coloré. Tiens, il est presque comme un pinot noir qu'on avait il y a 25 ans, un peu éclairé. Bah ouais, bah, pourtant, c'est une pinotterie, et puis c'est comme ça. Et il faut savoir qu'il y a 25 ans, peut-être qu'il y avait un peu de pinot gris dans les pinot noirs. C'est surtout ça qu'il faut préciser.
On ne savait pas forcément ce qu'il y avait dedans.
Merkin time, les bateaux, Merkin time.
Allez, place à la dégustation, c'est plutôt agréable. En plus, on est dans une cave avec une perspective sur l'église de Geberschwihr. Il y a des vignes. C'était vigne à toi ?
Oui, c'est une petite parcelle de Riesling qui se trouve juste derrière le caveau, c'est bien. On pourra, quand le temps sera un peu plus clément, il y a un peu de vent là, on peut aller à la vigne. Mais là, il n'y a pas grand-chose à voir. Les bourgeons sont encore un peu presque dans le coton. Et c'est vrai que c'est assez ludique d'aller voir un peu le terroir.
Du coup, là, on a commencé la dégustation. On a recommencé la dégustation avec un petit vin orange qui s'appelle Trio, qui est, alors je dirais, alors, tu me dis si le mot te convient pas, mais c'est un peu le vin glouglou, le vin de partage, de potes.
Exactement, tout à fait. C'est le vin totalement de saison, là, en trait de... printemps en terrasse. Alors, il est aussi très jeune celui-ci parce qu'il est 2020. Donc, il était mis en bouteille il y a 2 semaines et demie, encore un peu chahuté par la mise. Et on va lui laisser encore peut-être 3-4 semaines histoire de. Mais ça se remet vite en jambes, sans soufre, non filtré. C'est quand même assez ouvert. Le nez peut-être un peu fermé, la bouche un peu confuse encore due à la mise. Mais sinon, trio pour un trio de cépages, Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, plutôt sur les bas de coteaux, sur des terroirs de Luz, terroirs historiquement. Pas viticole, enfin viticole depuis une cinquantaine d'années, quoi. Et voilà, le but, comme tu l'as dit, étant de faire un vin plutôt de soif. On avait une réelle demande par rapport à ça pour des bars à vin, pour faire des formules ouvertes. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il faut des fois des vins qui se boivent facilement sans réfléchir.
Toi, tu connaissais, je crois, Trio, me semble-t-il, que tu avais déjà mis les papillons dedans ?
Pas du tout.
Pas du tout, je crois, j'ai cru.
Une fois que je goûte Trio, je crois. Oui, moi je trouve ça très sympa. Effectivement, ça reste digeste, l'amertume est maîtrisée. C'est assez épicé aussi, je trouve, en bouche. Donc je trouve ça très sympa.
Je trouve que c'est accessible. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, on est vraiment sur un vin orange de découvert. Bah, pas ça en entrée de gamme, je trouve que c'est toujours un peu réducteur. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est découverte. Et je pense qu'il est appréciable avec tout ce qui est plat un peu thaïlandais, un peu asiatique.
Oui, et puis pour en avoir fait l'expérience, comme les grillades, ça passe bien.
Un petit barbecue.
Ouais, vraiment, les grillades avec un vin comme ça, on peut démarrer à l'apéro. En fait, on le garde tout le long et c'est... C'est tellement apprécié que j'avais une demande et j'en ai fait en 2020. On a fait des magnums de trio.
Bon bah.
Ça ne suffit jamais.
Bon bah, alors, ce qu'on va faire le jour où on lancera, alors bientôt, les tournages pour YouTube, on t'invitera et tu viendras avec un trio.
Avec plaisir.
Dans la série des terroirs, on a le Mittelweg, me semble-t-il. Ça, c'est bien ça, que j'avais déjà goûté aussi chez notre copain Géraud. Salut Géraud. Mais c'est vrai que c'est là où j'avais découvert ta pâte.
Exactement, Géraud qui avait aussi apprécié ce vin-là. Et le Mittelweg, c'est en fait l'entrée du Grand Cru Goldair sur la face sud du Grand Cru. C'est un des terroirs cadastrés. Et quand j'ai commencé à faire ce premier muscat en macération dans ces terroirs, parce qu'on a nos plus beaux muscats effectivement dans cette veine-là de la commune, on l'a nommé non pas Grand Cru. Parce que je me suis un peu affranchi en fait des dégustations grand cru sur ce vin-là. et depuis, je reste sur l'appellation plus le dit Mittelweg que grand cru. Mais les raisins qui se retrouvent dans le Goldair qu'on a goûté tout à l'heure en fût, les muscats viennent du Mittelweg bien sûr. Le plus Mittelweg est dans.
Du coup,
le 25 jours. avec une majorité de grappes entières et une petite partie dégrappée pour le jus. Et au final, 2019, sans soufre et sans filtre pression, bien sûr.
Que représente l'arbre bleu sur l'étiquette ?
Bien, j'attendais la question des dessins. On a une politique d'étiquetage, en fait, mise à part pour Trio. Par exemple, Trio, c'est une étiquette, on va dire, où on change juste le millésime tous les ans. Donc, une étiquette plus graphique. Et les dessins, en fait, on a un dessin par millésime. Et les dessins sont faits par nos artistes familiaux, à savoir mes enfants. Donc,
tes enfants, alors si je peux demander, t'es pas obligé de répondre, t'en as trois, ils ont quel âge ?
Alors, c'est les deux années qui s'occupent des dessins, parce que le petit Antoine, il a 3 ans et demi, c'est un peu plus abstrait.
Ce serait drôle aussi de faire une étiquette.
Alors, c'est assez drôle, mais je sais pas si c'est vendeur. Et non, là, maintenant, ils ont 9 et 10 ans, ça c'était le dessin de l'année dernière, ça c'était Louis qui l'avait fait quand il avait 7 ans. Ouais. C'est un cèpe plutôt, arbre, cèpe, ouais, on ne sait pas trop. Je crois qu'ils voulaient représenter un cèpe de vigne, ouais. Alors, ils ne font pas des dessins spécialement pour les étiquettes. Maintenant, ils commencent à s'orienter. On a déjà 20 qui est un peu dans les tuyaux aussi, parce qu'il faut trouver le dessin. Comme on fait la mise dans un mois. C'est un peu stressant, mais j'aime bien ce côté. Moi aussi, ça me fait changer tous les ans d'étiquette. Et il y a un dessin parmi les îles.
Puis bon, on ne va pas se raconter. Je pense que tu gardes quelques bouteilles pour la postérité. Et puis...
quelques bouteilles. Et j'ai surtout gardé les originaux des dessins.
Puis c'est ça qui est génial.
Les feuilles A4, qui ne sont pas aussi petites que ça. Hein. Ça les surprend au début, ouais, de voir leurs dessins sur les étiquettes. Ouais, ils sont assez. Mais je trouve ça plus plaisant que de leur faire des cuvées qu'ils n'ont pas le droit de boire en plus.
Le papa a les yeux qui pétillent aussi quand il en parle, ce qui est normal. Mais ouais, moi, j'aurais pas pensé que. Moi, je me suis dit, tiens, le graphiste, il est drôlement sympa.
Non, parce que ça fait de très jolies étiquettes, justement, et c'est très bien. C'est... Bravo.
On leur souhaite. Après, s'ils sont moins digitales que les autres, c'est très bien aussi. Hein. Du coup, ce Mittelweg, alors Mittelweg, parce que je ne vais pas le dire en anglais, Mittelweg, c'est le chemin du milieu.
En traduction littérale, oui, tout à fait.
Et Rebgarten, c'est jardin
des vignes, contractions.
Ah, Reben.
Ouais, Rebgarten. Bah, des Rebgarten, il y en a pas qu'à Gebersch, hein. Il y en a un en Loup.
C'est vrai. Donc là, le Mittelweg, on a une aromatique qui est très expressive au nez.
Tu ressens en fin de bouche aussi. T'as de nouveau ce côté muscat qui revient en fin de bouche. T'as beaucoup de fraîcheur, mais assez de rondeur. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rond. Ouais.
Il y a une amertume qui est assez présente, ouais.
Il y a des amers, ouais. Alors les amers,
mais qui n'est pas que, enfin que moi j'aime beaucoup. Je trouve que ramène une structure, mais aussi un équilibre. L'aromatique.
Alors faut savoir que les muscats quand ils se vinifient très secs, même en pressurage, on a souvent des amers. Notamment à Gebersheim sur des marnes calcaires. Après je connais pas trop les vinifications sur d'autres terroirs, mais quand même, comme me le précisent des fois les gens les vignerons qui ont des terroirs de granit, qui me disent que les granites apportent des amers. Quoi. Et ces amers-là, ils sont là, ils doivent être mûrs et bien insérés dans le vin et bien mariés aux autres structures du vin, les acides. Mais j'aime bien préciser que le Mittelweg, c'est pas seulement un muscat de macération, parce que si j'avais pris des muscats que j'utilise par exemple pour mon pétnat en autonnel, en bas de coteau, sur des plaines et que j'avais fait une macération, ce serait vraiment pas le même rendu, étant donné que le Mittelweg, on est dans le grand cru, il y a un vrai effet minéral, pour moi c'est un grand vin de gastronomie, quoi. Et en plus de ça, je parlais du muscat autonnel, là-dedans il y a à peine 5% d'autonnel, sinon c'est 100% petit grain d'Alsace, blanc et rose, et c'est la particularité vraiment de ces muscats dans les marnes calcaires du Golder.
C'est bon,
hein. Poissons, c'est très bien, avec des poissons et des fromages. Les poissons et les fromages, ça marche vraiment bien, j'ai pas tellement de retour sur des viandes. Après, quand on l'a adopté, si on intègre bien ses amers...
Des poissons un peu gras. Hein. Poissons plutôt gras, style macro, ce genre de choses.
Ouais, fruits de mer aussi. J'ai déjà fait sur des huîtres. C'est très bon. Franchement, ouais. C'est assez hallucinant.
L'amertume me rappelle un peu le côté houblonné un petit peu. Enfin, il y a certaines bières qui sont un peu dans cet esprit-là.
Je suis d'accord. Il y a beaucoup de clients en le dégustant, surtout quand il est un peu à température, sont un peu déstabilisés parce que alors je comprends pas, là c'est un peu cidre, un peu on dirait de la bière aussi, enfin c'est un peu bah c'est bien, ça fait les trois du coup ça fait 20 bières cidre et puis voilà.
C'est ça. Allez, place au troisième. Du coup on est sur le Sperling.
goûté aussi tout à l'heure en cave en 2020, et là on est sur 19. Macération aussi de 25 jours. Alors il y a plus de proportions en égrappage, par exemple, mais c'est aussi via une défaut de place. Et
tu parles de laisser millésime sur la couleur, oui, là, complètement. Oui, ça n'a rien à voir. C'est clair.
Effectivement.
On a encore une fois cette aromatique qui est géniale au nez, expressive, un peu là sur le coup, et côté un peu poète qui arrive là. Hein, t'as envie de te coucher avec cette bouteille dans un champ avec peut-être un peu l'odeur de pâquerette, c'est le printemps, et t'as juste envie. Mais c'est là, quand j'ai mis le nez dedans, j'ai dit ça, c'est un vin de détente. T'es posé, tu penses à rien, limite à un bon bouquin ou à un bon match, ça dépend ce que t'aimes le, ouais, c'est plus cérébral ou sportif, mais juste passer du temps. Mais je crois que c'est le genre de vin que tu bois, mais finalement, peut-être avec toi-même, toi, tu peux partager, forcément, c'est un vin. Mais de temps en temps,
c'est vrai que...
tes cuvées perso, de temps en temps.
Si, alors, bon, je pense que c'est quand même plus un vin de partage. Par rapport à ce que tu dis, le boire tout seul, moi j'aurais plutôt misé sur Golder, mais après, c'est un avis personnel. le Sperling, ouais.
Si on est longtemps tout seul, on peut en enchaîner sur un deuxième.
C'est sûr. Et le Sperling, pour moi, ouais, de beaux accords aussi à faire à table. Vraiment, on peut aller. Alors, les carnassiens, ouais, quand même, il y a beaucoup de viande qui vont aller sur ce type de vin. Les fromages aussi, plutôt à pâte dure. Et une fois qu'on l'a adopté, moi je suis pas contre un apéro à l'Osparling, avec un saucisson, un jambon, même quelques fromages, des olives, des tapenades, ça va bien. Un peu plus robuste, hein, on a ce côté, ça pinote bien. Hein, c'est un restaurateur un jour qui me disait, ton Osparling, c'est du Bourgogne. Hein. Je dis oui, bon, merci. Je sais pas si c'est un compliment. Si, quand même, parce que. Mais c'est vrai que les bureaux qui sont des fois ajoutés dans les Bourgognes sont des pinot gris, quoi. Hein. Jean-Michel a dû vous en parler, du bureau. Mais c'est vrai que. Une belle version du pinot gris, pour moi, très gastronomique, toujours sec. Certes, une couleur, mais ensuite, on a des tanins et. Assez structuré. Il y a un peu ce. Alors. Un millésime très jeune, pour moi, il y a un peu cette réduction au nez, le premier nez, à l'ouverture, c'est un peu le côté... Mais pour moi, c'est les bonnes réductions, en fait. C'est des réductions qui évoluent. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas animal, mais c'est un peu... voilà.
Non, il a de la présence, hein, il a du caractère.
Un peu toujours les deux, ouais, exactement. C'est peut-être pour ça que j'en ai encore en stock, parce que pour moi, c'est pas des vins qui sont prêts à boire.
Il faut leur laisser un peu de temps.
Ouais, il faudrait leur laisser du temps. Et il y a eu un peu ce succès des macérations où on vendait assez rapidement, mais et je suis pas mécontent de ça, d'avoir encore un peu de stock là-dessus. Comme ça, moi, mes vins, c'est pareil, je vais les mettre en bouteille, 2020, pardon. Je vais les mettre en bouteille et on va pouvoir les attendre et les relaisser aussi les 6 mois, 1 an qu'ils ont besoin. Parce que ça aussi, c'est une grande question que les gens se posent. Ah oui, c'est du vin sans soufre, donc faut le boire ce soir ou demain matin, parce que...
Ça tient longtemps ou pas?
Alors, moi, je m'excuse, mais j'ai jamais fait de tenue à l'air aussi intense, bouteille ouverte, que sur mes vins de macération. J'ai des copains, même à Paris, je suis déjà allé chez des copains, ils m'ont dit « Ah ouais, tiens, j'ai des bouteilles de Neuvig, il y avait encore 10 cm dans la bouteille, ça faisait 3 semaines que c'était au frigo. » Je dis, bah vas-y. Alors, je dis, la première chose qu'on va faire, c'est pas le boire froid de ton frigo. C'est bien d'avoir mis au frais. Mais on va le laisser tempérer à nouveau. Et puis après, on va le goûter. Et il était. Il y avait une forme d'oxydation. Il y avait peut-être une petite perte d'acidité, une petite mollesse dans la bouche. Mais c'était de loin pas fatigué. Et pour moi, ça, c'est des grands vins de garde. Et c'est pour ça que je suis resté personnellement sur cette image éthique des terroirs. C'est pas du tout le cas de Trio, par exemple.
Non, bah après, c'est...
Je veux dire aussi, quelques jours, voilà, ça, en formule ouverte, ça marche très très bien. Mais je ne conseillerais pas à un de mes clients de garder ça 20 ans dans sa cave en disant, tu verras, dans 20 ans, ça va être une magie, ce vin. Et si, mais il y aura... Non, il y a tous les autres vins de terroir qui sont vraiment à travailler pour ça. Et qui, peut-être, dans la jeunesse, sont encore un peu fermés.
Je peux se fidéliser à propos des verres noirs. C'est vrai que quand on voit la couleur, là, on s'attend à un rosé un peu classique. Et en fait, il y a vraiment de la longueur, il y a vraiment de la tenue.
Il y a une longueur, l'aromatique est là, même en fin de bouche. On a encore un peu d'amertume en fin de bouche, mais qui est encore l'équilibre. On est sur encore ces équilibres-là. Alors, Osperling, ça te parle? T'as la moustache qui frétille?
C'est super bon parce que t'as la salinité d'abord, je trouve, et ensuite t'as l'amertume qui revient et qui permet d'avoir une belle longueur et une belle finale.
En fait, dans tes yeux, tu t'es trahi tout seul. Tu savais pas si tu voulais l'avaler ou pas. T'avais un moment de...
Et je crache et comme j'étais en train de rigoler en même temps, j'allais partir dans tous les sens. Donc c'est très beau. Et là, je l'ai encore en bouche cette amertume qui est présente, qui est pas agressive du tout. Et c'est super beau, quoi. Ça ramène vraiment beaucoup de complexité. Je vois la différence dans la finesse quand même de tes macérations, je trouve, par rapport à d'autres qui le font et qui sont pas forcément convaincus et qui veulent juste un truc vraiment massif avec beaucoup de tanins, avec tout ça. On voit beaucoup de macérations qui se ressemblent. Tu as présupposé d'une question qu'on allait te poser, c'est est-ce que la macération, c'est vraiment un terroir ou pas? Et là, oui, complètement. Sur tes vins-là, où on retrouve la minéralité et tout, ça en est complètement.
Ouais, moi je suis assez convaincu de ça, mais comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment un mode de vinification que moi j'ai adopté, et je dis toujours à mes clients, si dans 5 ans le vin orange n'est plus à l'homme, moi je continue à faire des vins oranges, hein, parce que c'est quelque chose, je peux plus m'en passer pour faire des vins exclusivement secs et qui exaltent autant la spécificité de mes terroirs.
Mais je pense que moi j'ai plutôt l'impression que ça va devenir normal. Comme le vin blanc, le rosé, ça va peut-être donner une palette différente.
Faudrait pas qu'il y ait de code couleur. Moi, ce que j'entends souvent quand on goûte les... Alors, c'était un peu le cas de Mittelweg, mais peut-être pas sur 19. Et j'avais un Sylvaner 18 qui était vraiment très style oxydatif, clairement. C'est-à-dire, c'était un peu pomme à cidre. En fait, j'ai mis en bouteille avec 2 grammes, sans soufre, et il a fait sa petite fermentation en bouteille tranquille, donc il était légèrement perlant. Une fois passé la fermentation, tout s'est bien passé. Et ce style apportait beaucoup de questionnements et d'interrogations au moment de la dégustation, parce que j'entendais souvent dire « Ah, tiens, on dirait les vins du Jura ». Et alors voilà, moi, c'est un bon exemple, parce que je trouve que les vins du Jura, ils se sont donné un style par la dégustation du vin, quoi. C'est-à-dire qu'un vin oxydatif à caractère pomme verte, pomme à cidre, c'est un vin du Jura, quoi. Dans la tête des gens, c'est ça. Alors que quand on goûte des Sauvignons houillés, non, c'est pas oxydatif. Voilà. Donc c'est pareil dans toutes les régions. Il y a pas de mot clé pour dire ça, c'est du telle région. Ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que le but, c'est pas de biaiser. Tout un travail qui a été fait, au fur et à mesure du temps. Mais je pense que c'est, pour ma part, c'est beaucoup plus intéressant d'explorer des styles de vinification qui sont peut-être plus adaptés au terroir et au style de raisin qu'on a sur une commune que de planter des nouveaux cépages où on aura des... C'est bien aussi, hein, moi je suis
cher
contre la Syrah, mais peut-être que c'est peut-être pas judicieux d'en mettre là. Alors on peut miser sur le réchauffement climatique, mais bon, moi je pense que tout est cyclique aussi. On aura des hivers rudes de nouveau, on aura aussi des... Là, pour l'instant, c'est bien parti pour... Enfin, pour l'instant, à mon avis, là, on ne vendangera pas en septembre. Hein. Parce que tout est déjà un peu en retard, c'est une année normale et c'est bien. Les années ne se ressemblent pas et c'est bien de faire des essais quand même d'autres cépages en Alsace, mais je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon, je vais en dire trop.
D'accord.
Je pense qu'il y a des cépages dans certaines régions qui sont mis à leur place. Après, peut-être l'idée de chercher ces cépages et de les vinifier dans d'autres régions, ça, c'est une idée qui est intéressante.
Ben, petit à petit, on va passer à la dernière partie, au petit moment sauvage. Hein, parce qu'à un moment donné, faut bien le cuisiner un petit peu. Hein. Non, je te rassure, c'est simplement des questions comme ça qui sont dans ma tête, qui peuvent sortir. Il y en a certaines que je mets. J'ai un petit éventail, simplement me donner une réponse rapide. Un vin de toi pour Avant l'amour.
Neuvig.
Okay. Après l'amour.
Golder.
C'est pas mal. Ça prend de la hauteur, tu vois. Et quand les choses sont bien faites. c'est quoi ton dernier coup de cœur vin que tu as eu? Pas forcément de toi, hein, mais où tu t'es dit pendant le confinement ou pendant à Pâques, à Noël, je sais pas, t'as goûté un truc, tu t'es dit waouh! Ça, j'ai l'impression que tu es assez curieux de ce côté-là.
Ça, c'est une bonne question. Oui, j'ai goûté un Pinot Noir de Nouvelle-Zélande, pas si longtemps que ça. Alors, le domaine, c'était quoi? Faut que je demande à Jean Tellu qui l'a amené. Et c'était une belle surprise.
Et toi, dernièrement, t'as goûté quoi qui t'a fait « Waouh !»
un petit waouh, mais qui fait plaisir avec ce temps chaud. C'était le pétnat de Muscat du domaine de l'Envol hier, où j'ai trouvé ça super sympa, avec une finale sur l'amande amère un petit peu. Donc ce côté floral au nez qui était très très bienvenu à 11h30 un dimanche ensoleillé, et puis avec quand même un petit peu de fond, donc très très sympa.
Ben moi je vais partir sur une bière, je vais pas partir sur un vin, sur une bière, parce que j'ai goûté la dernière, grâce à toi d'ailleurs, la bière de printemps de chez l'Altruiste, la petite ambrée, un petit peu une belle aromatique, c'est quelque chose. Les Altruistes, ils sont à Chervillers, ils font des bières un petit peu différentes de... Ils sont très classiques, mais en même temps, ils sont créatifs dans le classicisme. Je trouve ça génial. Ils sont relativement accessibles. Et puis, ils sont d'une enfin, Julien, moi, je peux l'écouter parler de bière pendant des heures. C'est toujours très intéressant, très cérébral. C'est quoi ta recette du bonheur?
Ma recette du bonheur, en combien de points?
Une recette, hein, quoi.
Je pense qu'il faut profiter des bons moments entre amis, autour de toujours d'une bonne bouteille. Ça, c'est très important. Et être bien entouré, je pense que c'est la clé. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau des amis. Quand on est bien entouré, on se sent bien. Et au final, on est bien. Donc, on est heureux.
J'aime beaucoup.
C'est une astuce pour un ventre plat pour l'été. Ça me fait penser.
Alors donc du coup tes trois astuces pour avoir trois places. Es-tu sportif?
Le soir ou le matin?
Le soir ou le matin? Non, on va éviter. Mais non, c'est important les clés du bonheur, les champs. Du coup, je vais poser la question d'IRH. Trois mots pour définir ton domaine.
Calcaire, macération, nature.
Et dernière question, un petit peu plus sensible, dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants disent de toi?
Qu'ils me trouvent cool, à tout âge, que ce soit maintenant ou dans 30 ans.
Et t'aimerais qu'il y en ait un ou une qui reprenne le domaine?
Ah, idéalement les trois.
Idéalement les trois.
Reprennent ou...
En fasse quelque chose, peut-être différent.
Structifier, même au travers d'une autre personne. On n'est pas obligé de travailler sur un domaine pour en faire la gestion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du vin et qui n'ont pas de vigne. Il y en a beaucoup qui ont des vignes et qui ne veulent pas faire du vin. C'est bien, c'est un bon équilibre.
Je te remercie. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous?
Ah oui, très. Un peu court. Mais
un peu court.
Tant qui malheureusement va écourter ce moment.
On a vécu quand même une bonne matinée, on a dégusté de très belles choses, c'est toujours un plaisir d'aller dans le Haut-Rhin, même, et c'est un barinois qui le dit, hein, comme quoi les choses évoluent. Bon, j'aime bien titiller un petit peu. Alors imagine-toi le jour où on fera un vigneron Haut-Rhin, alors lui, je pense que lui... Bien sûr. Comment as-tu vécu cette matinée?
C'était très bien, très rapide effectivement. On n'a pas pu faire un tour des vignes et tout ça, mais c'était très très bien. Et ça goûte toujours aussi bien. Donc,
mais comme donc je te propose un truc, dès qu'on fera le grand cru, on revient chez toi. Comme ça, on prendra vraiment le temps de faire le grand cru. Buvons modérément, buvons libre, buvons Alsace. Et là, je veux un grand skilt.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.